question plus générale. Voici le point sur lequel il me semble que vous pourriez revenir. L'acte d'admiration, l'acte d'adoration demande que le corps soit associé et par là l'attitude religieuse s'extériorise. Mais cela n'implique pas immédiatement une dimension communautaire. Chacun pourrait prier Dieu dans sa chambre. Porte fermée. Tout à fait d'accord. Et on doit le faire. Pourquoi donc l'attitude religieuse demande-t-elle un culte communautaire? Est-ce parce que tous les hommes sont dans la même dépendance par rapport au Créateur? Est-ce parce que l'homme entend mieux répondre à la transcendance de Dieu en se regroupant? N'y a-t-il pas dans l'attitude religieuse, et là peut-être l'éthique chrétienne se distingue-t-elle de l'attitude religieuse, de l'éthique religieuse, quelque chose qui radicalement dépasse l'individu? Cela expliquerait pourquoi cette dimension de la personne humaine peut être nié plus facilement que le travail ou l'amour. Oui, c'est très vrai. C'est du reste pour ça que nous avons fait une éthique religieuse au niveau éthique personnelle. L'éthique religieuse est premièrement une éthique personnelle. Et elle est dans le prolongement de l'éthique personnelle. Et l'adoration est premièrement un acte personnel. Que l'adoration implique que le corps lui-même adore par l'âme. Autrement dit, l'acte d'adoration se situe à un niveau tellement profond qu'il implique l'unité de l'âme et du corps. C'est mon être qui adore. C'est pas ma pensée. Il faut être cartésien pour que ce soit la pensée. Pour Descartes, c'est la substance pensante qui adore. Pour nous, c'est pas la substance pensante. C'est mon être qui adore. Et j'adore dans tout ce que je suis. Et dans tout ce que je vis. Donc, mon âme et mon corps. C'est bien évident que l'adoration impliquant le point de vue du corps reste personnelle. Mais je veux dire que par le corps, il y a tout de suite une dimension communautaire qui va venir s'ajouter. Puisque c'est par le corps que l'être humain est un être communautaire. Et ceci dès sa conception. Puisque je suis conçu en fonction de mon père et de ma mère. Donc nous sommes tout de suite trois. Il y a donc une communauté familiale qui est à la racine de l'homme. Et cette communauté familiale va de fait s'étendre dans une communauté humaine. Donc c'est bien par le corps, voyez, que l'aspect communautaire intervient. Et c'est par le corps que l'attitude religieuse va de fait impliquer une attitude liturgique communautaire. C'est pas premièrement par l'âme. Les anges n'ont pas, alors ça, je mets ça entre parenthèses, parce que du point de vue philosophique, je peux pas dire grand chose. Si les anges existent, philosophiquement parlant, si les anges existent, les anges n'ont pas de communauté naturelle et de communauté liturgique. Bienheureux anges qui n'ont pas de communauté naturelle, qui vivent dans leur solitude la plus parfaite qui soit. Toujours la spiritualité du désert. Elle est angélique. Et les anges sont au-delà de la liturgie. La liturgie est propre à l'homme. qu'on doit l'aimer. Elle est propre à l'homme. Elle caractérise le point de vue humain dans son adoration vis-à-vis de Dieu. Donc, vous voyez, c'est bien par rapport au corps que la communauté existe et que la liturgie existe. C'est pour ça que certains pourront dire « Moi, j'aime mieux la prière tout à fait solitaire, spirituellement. » C'est normal, point de vue de l'esprit. Quand vous réfléchissez très intensément, c'est très gênant qu'il y en ait d'autres à côté. Mais d'autre part, vous pouvez dire que dans le travail communautaire, il y a des échanges d'idées qui sont bonnes. Pourquoi je vous demande de poser les questions? C'est communautaire. Parce que moi, je ne me pose pas nécessairement toutes les questions que vous vous posez. Si je n'avais pas mon corps, je ne vous dirais pas de poser, je ne dirais pas poser des questions. Je n'aurais pas besoin. C'est-à-dire qu'il y a un langage. Le langage est communautaire. Et alors là, il y a un enrichissement qui se pose par là. L'amitié est propre à l'homme. Donc, c'est vraiment le corps qui permet ça. Et qui permet qu'il y a donc, dans le point de vue de la communauté, comme un reflet du mystère de l'adoration qui demande cette liturgie. Donc, pourquoi donc l'attitude religieuse demande-t-elle un culte communautaire? Est-ce parce que tous les hommes sont dans la même dépendance? Plus radicalement, c'est le corps. Ensuite, c'est cette dépendance. C'est sûr, ça c'est l'aspect fondamental. Est-ce que l'homme entend mieux répondre? En troisième lieu, toutes ces raisons sont bonnes. Et la raison propre, c'est le corps. C'est la raison propre pour laquelle il y a une éthique communautaire. Imaginez, mais la liturgie céleste existe à cause de la grâce. Ceux qui sont morts sans être encore glorifiés dans leur corps ont une liturgie céleste dans le ciel, angélique, à cause de la grâce. Ici, je me place au point de vue philosophique. La grâce chrétienne et communautaire, elle est premièrement contemplative, elle est en second lieu communautaire, mais elle est essentiellement communautaire. Parce que la grâce chrétienne respecte la nature, et la nature humaine implique cet aspect communautaire. Vous voyez ? Ah oui, les anges sont des êtres communautaires par la grâce, par leur grâce. Et leur grâce n'est pas chrétienne. Hein? Elle est de justice originelle. Alors, la liturgie angélique est très particulière. Oui. La grâce, même non chrétienne, c'est-à-dire de justice originelle, implique quand même la charité. À cause de l'Esprit Saint. Et nous, la charité, c'est à cause du cœur de Jésus. Le cœur du Christ et l'Esprit Saint. Mais radicalement, c'est l'Esprit Saint. C'est parce qu'en Dieu, il y a une communauté. Alors, n'y a-t-il pas dans l'attitude religieuse, et là peut-être l'éthique chrétienne se distingue-t-elle de l'éthique religieuse, quelque chose qui radicalement dépasse l'individu? Oui, l'éthique chrétienne met un accent supplémentaire à l'aspect communautaire, la charité fraternelle. C'est-à-dire intègre, alors c'est ça, c'est le propre de l'éthique chrétienne, intègre la charité fraternelle d'une façon essentielle à l'éthique personnelle. La famille chrétienne est plus immédiatement liée à l'éthique personnelle que dans l'éthique religieuse. Mais le corps est quand même essentiel. Donc, l'éthique communautaire religieuse, du moins l'éthique religieuse communautaire, l'aspect communautaire est essentiel à l'éthique religieuse. Mais moins immédiatement relié. Alors cela expliquerait pourquoi cette dimension de la personne humaine peut être niée plus facilement que le travail ou l'amour. Oui, sûrement. Plus facilement, on peut regarder uniquement l'aspect communautaire, dans la charité fraternelle. Mais ce n'est pas juste, hein, parce que la grâce ne supprime pas la nature. Autre question. Pouvez-vous expliciter pourquoi la rivalité entre le bien commun politique et le bien commun religieux est plus immédiatement qu'entre le bien commun familial et le bien commun religieux? Oui, ça c'est assez subtil et intéressant du reste. Vous vous souvenez la dernière fois, on a poussé cela pour essayer de comprendre. La question est posée comme ça. Hein. Est-ce que le point de vue religieux exige-t-il une politique religieuse? C'est la question que je me posais. Comme vous se posera la question, est-ce que la foi chrétienne réclame une politique chrétienne? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que, vous voyez, pour avoir le cœur net là-dessus, il faut se poser en éthique religieuse, en éthique chrétienne. Alors, le bien commun politique et le bien commun religieux, je vais vous montrer comment il y a une communauté religieuse. Et la communauté religieuse est commandée justement par cet aspect liturgique, cette prière en commun, cet aspect liturgique, qui est un bien commun, réel. Ce bien commun liturgique n'est pas le bien commun politique. Pourquoi? Parce que le bien commun politique est temporel. Le bien commun religieux n'est pas premièrement temporel. Ça, on peut le saisir assez facilement. Le bien commun politique est temporel, puisque c'est le bien-être de chaque personne humaine qu'on recherche et la possibilité pour la famille de vivre. Donc le bien commun politique implique nécessairement des biens temporels. C'est pour ça que l'économie fait partie du bien commun politique. Essentiellement, bien que ce soit fondamental, que ce ne soit pas final, ça fait partie essentielle. Tout régime politique doit avoir une certaine conception politique. Tout régime politique. Ça ne caractérise pas le régime politique, sauf dans le marxisme, qui ramène l'aspect politique à l'aspect économique. En dehors du marxisme, la finalité politique d'un pays et plus que sa finalité économique. Donc le bien commun politique est plus que l'aspect purement économique, puisqu'il y a la culture, puisqu'il y a la famille, et que la famille et la culture dépassent le point de vue économique. Le point de vue économique peut-être international. Le point de vue culture et le point de vue familial ne sont pas internationaux, ni l'un ni l'autre. culture internationale. C'est impossible. Puisqu'il y a des langues diverses. Et que la culture est liée à la langue. Elle est liée à l'art. Donc il y a un bien commun propre à chaque pays. Un bien, la culture est propre à chaque pays. Chaque pays a sa culture. Tandis que l'économie peut devenir internationale. L'économie d'aujourd'hui est internationale. Mais elle s'internationalise, mais elle perd son caractère de culture. La culture internationale, ça vaut pas grand-chose. Et qu'à regarder l'architecture internationale. Vous vous délimitez par le dénominateur commun, le plus bas, l'économie. Que ça conditionne, tout à fait d'accord, ça ne la détermine pas. Tu vois, vous l'avez vous-même dit, ça s'internationalise. Donc ça montre pas, ça montre bien que ça ne se détermine pas. Ah ça, c'est les droits de l'homme. Vous voyez ? Les droits de l'homme, c'est l'aspect apologétique de la culture. Et vous devez défendre les droits de l'homme parce que vous avez des communautés où la culture s'identifier à l'économie où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Autrement, elle n'aurait pas besoin. C'est à cause de ça. Quand l'économie s'identifie à la culture, ou plus exactement, quand vous ramenez la culture à l'économie, alors à ce moment-là, les droits de l'homme n'existent plus. Puisque c'est l'impératif économique qui commande tout. Et l'impératif économique n'est pas, par lui-même, parfaitement humain. Il touche un élément humain, le travail. Qu'il doit respecter cet élément humain. Et quand l'économie est prise par l'idéologie marxiste, ou libéral, au sens absolu, capitaliste libéral, elle ne respecte plus l'homme. L'encyclique du pape sur le travail. Oui. Donc il faut bien comprendre ça, c'est très très important. Oui. Donc, le bien commun politique, le bien commun politique inclut des valeurs religieuses, inclut des éléments religieux. Le bien commun politique ne peut pas régenter, déterminer le bien commun religieux. Le bien commun religieux a des principes propres. Comme la famille, que le bien commun politique ne peut pas régenter. Le bien commun politique doit respecter la famille et la communauté religieuse. Ça me semble capital. Alors on pourrait préciser, mais ce serait très intéressant du reste à préciser. Autrement dit, il y a deux biens communs différents. Il y a trois biens communs différents. Trois biens communs différents, vous voyez. Il y a un bien commun. Il n'y a pas que la famille qui est religieuse, c'est la personne. La famille aussi. Bien commun. Donc, il y a un bien commun religieux. Puis, il y a le bien commun politique. On en parle très peu du bien commun religieux. Oui.
Est-ce qu'il y a aussi des biens communs pour les communautés intermédiaires, par exemple l'entreprise?
Oui. C'est très économique. Oui. Je crois que c'est par l'interférence religieuse et par l'interférence familiale qu'il y a ce point de vue-là qui va intervenir. Oui. Parce que dans le bien commun politique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des éléments économiques. Ça, c'est bien évident. Temporel. Le bien commun temporel implique des éléments économiques. Ce point de vue économique tend à être international. C'est un fait. Je ne dis pas que c'est un bien. C'est un fait. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que votre économie va s'isoler complètement. Il y aura toujours, il y aura toujours des reprises pour faire une politique d'un pays, politique européenne, internationale. Elle remet des douanes pour défendre. Vous voyez, faut défendre le blé russe, le blé américain, le vin français, et ainsi de suite. Vous voyez. Alors ça, c'est le point de vue de l'économie. Il tend à être international, et il l'est de fait. Il y a la culture. La culture, ça implique le point de vue de la langue, la poésie, le chant, l'art, parler de la culture. Tout ça, la culture, hein, des quantités de choses. La culture peut être et peut rester au niveau politique d'un pays. C'est lié à un pays, ça. À la patrie. C'est ça, la patrie. La patrie, c'est fait de culture, c'est fait d'un tas de choses. La culture implique des éléments religieux et implique la famille, hein. On doit respecter, dans la mesure où il y a quelque chose d'irréductible. Parce que dans un pays, il y a beaucoup de familles, et il y a diverses communautés religieuses. Il n'y a pas qu'une seule communauté religieuse. Il y a diverses communautés religieuses. La communauté religieuse peut tendre à l'unité. Très bien. Tandis que la famille ne tend pas à l'unité. La famille a une singularité beaucoup plus profonde. Tandis que l'aspect religieux a un fondement commun de tous les hommes. Et parce qu'il y a un fondement commun de tous les hommes, il peut tendre vers une certaine unité pour mettre en lumière les éléments communs de toute religion. De sorte qu'il pourrait y avoir un syndicalisme religieux qui se défend contre l'aspect politique, contre l'aspect économique qui veut tout. Ça peut très bien se faire, ça. Parce qu'il y a des éléments communs qui regardent l'homme comme tel, au-delà de la famille, la personne humaine. Oui, c'est pour ça qu'il y a une liberté religieuse qui est distincte de la liberté familiale. Parce que ça touche l'homme dans ce qu'il a de plus profond, de plus radical. Et la liberté religieuse se comprend par rapport au bien commun politique, face à l'économie, face à une idéologie. Parce qu'il peut y avoir une culture qui repose sur une idéologie. Ça peut très bien se faire. Et cette culture alors devient fausse. Toute culture idéologique devient fausse. De droite ou de gauche. C'est pas une vraie culture. La vraie culture repose sur l'art qui doit être humain au-delà des idéologies. Vous voyez, l'élément philosophique, l'aspect traditionnel d'une philosophie, peut porter de la culture, parce que dans la culture, il y a le développement des sciences, il y a le développement de la philosophie. Comme dans l'aspect religieux, il y a le point de vue réflexion, méditation. Et si l'aspect religieux est chrétien, il y aura la théologie. C'est plus chrétien, ça. C'est-à-dire que là, alors, on a le poésie, on a le point de vue forcément philosophique, science, art, tout le développement des écoles. Puisque, alors, la grosse question, vous voyez, la grosse question qui se pose tout de suite, dès qu'on voit ça, je crois que ça, on peut tous comprendre ça. Vous voyez, pourriez-vous expliciter pourquoi la rivalité entre le bien commun politique et ce bien commun religieux est plus immédiate qu'entre le bien commun familial et le bien commun religieux? Alors, on va expliquer ça. Il y a une alliance plus fondamentale entre la famille et la religion qu'entre la religion et l'État. Voyez pourquoi? Parce que la famille est beaucoup plus au service de la personne humaine. La famille, c'est le lieu de l'éclosion de l'amour. La famille repose sur une alliance de choix, d'amour. Et l'amour est beaucoup plus lié à l'aspect religieux, puisque fondamentalement, c'est Dieu qui est source de l'amour. Et donc, fondamentalement, la religion garde la famille. La religion est gardienne de la famille. Parce que, justement, la religion touche à la source, elle remonte à la source de la lumière et de l'amour. Et donc, il y a un lien fondamental entre religion et famille. Ça, ça me semble très net. Tandis qu'il n'y a pas de lien fondamental entre la communauté religieuse, vous voyez, et la communauté politique. La communauté religieuse maintient la finalité propre de chaque personne reliée à la source. C'est la personne. Tandis que, instinctivement, la communauté politique regarde le tout. Pourquoi? Parce qu'elle est au niveau du conditionnement. Le bien commun est au niveau du conditionnement. Il n'est pas au niveau de la finalité. Il n'y a pas de finalité personnelle au point de vue politique. Il y a un bien commun qui regarde le conditionnement, le bien-être, le point de vue économique. Et donc, de fait, il y aura une rivalité constante, je dis bien une rivalité constante, entre le bien commun religieux et le bien commun politique, entre le bien commun familial et le point de vue commun politique, alors qu'il y a une alliance fondamentale entre religion et famille. Oui. Ça, c'est autre chose. C'est un système politique. Je ne regarde pas ça ici. Je regarde le bien commun. C'est deux choses différentes. Vous regardez tout de suite tel système. Ça vient après. Il faut d'abord regarder les fondements. Vous voyez ? Parce que si vous regardez tel système, il y aura des systèmes politiques qui voudront sauvegarder la famille et la religion. Et qui considéreront que le bien commun politique doit être d'abord et en premier lieu gardien de la famille et gardien de l'argent, ce qui est tout à fait juste. Si la politique comprend que l'État ne peut être heureux que si la famille est heureuse. Si la famille ne vous donne pas un bien commun où ça permet la survie de l'espèce, il y aura une conséquence immédiate au point de vue politique et au point de vue religieux. Donc un État intelligent comprend qu'il doit sauvegarder la famille et la religion. Alors, un État intelligent peut-il diriger la famille et la religion? Je dis non. Protecteur. Et l'État ne donne pas à la famille sa finalité. Dans toute espèce de régime. Et l'État ne donne pas à la religion sa finalité. C'est la personne humaine qui donne l'aspect religieux. C'est pas l'État qui est premièrement religieux. C'est la personne. Oui, c'est très intéressant, au point de vue purement philosophique, hein, de voir l'aspect religieux. C'est un attribut. L'aspect religieux qualifie quoi en premier lieu? La personne. C'est la personne humaine qui est premièrement religieuse. Ensuite, la famille. Par la personne. Pas directement. La famille est religieuse par la personne. Si le couple est religieux, ils auront une éducation religieuse, les enfants. Et est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une politique religieuse? Pouvez-vous attribuer essentiellement, hein, je suis en face des attributions des catotos, pour ceux qui se rappellent, hein, les catotos, les attributions nécessaires. Religieux attribue nécessairement personne. Attribue nécessaire la famille par la personne. Donc c'est déjà plus immédiate. Et la politique par la famille. Pas directement. Le point de vue politique peut être gardien de l'aspect religieux. Il n'intervient pas directement. Et vous comprenez pourquoi? Parce que l'aspect politique regarde le bien commun, et le bien commun politique regarde le conditionnement humain et pas la finalité. Alors que l'aspect religieux regarde tout de suite la finalité. Et alors l'État est gardien des communautés religieuses, le climat, le milieu. Il n'est pas gardien de l'adoration. L'État ne va pas vous dire adorer 7 fois par jour. Et là, on sera tranquille. Pendant que... Mais l'État peut dire, oui, peut conditionner. L'État pourrait dire, je demande que vous vous réunissiez dans tel lieu, non pas dans tel autre lieu. Mais au moins réserver un lieu. Construction des églises, on demande à l'État la permission. Un lieu de culte. Et l'État pourrait refuser la construction d'une église à tel endroit. Si le bien commun de l'homme le réclame. Tiens, non, il faut la mettre un peu plus loin. Plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme est politique. Il n'est ni familial ni religieux. L'urbanisme relève de l'État. Et du point de vue économique, et du point de vue culture, artistique. Vous allez construire dans un petit village merveilleusement médiéval. Et il faut une église. Il faut une église. Bon. S'il y avait dans ce village un lieu où il y avait l'église qui a été détruite à la Révolution. Vous pourriez réclamer la reconstruction de l'église à ce lieu-là. Il y aurait une belle bataille. On pourrait comprendre ça. Mais l'État dirait, oui, mais pas plus haut que l'ancienne église, petite église romane. Pas dépasser ça. Faites pas un truc. Hein. Faut très bien réclamer ça. Parce qu'on est en face d'un bien commun. Vous voyez, tous ces problèmes-là, il y a des principes là-dessus. Des principes sous-jacents qui fait comprendre. La plupart d'eux, ils ne réfléchissent pas. Et du bon sens. On sait qu'on ne peut pas aller quand même contre le bon sens des gens. Un village où il y a quand même un groupe fervent, religieux, chrétien, je ne crois pas ça. Alors le gros problème n'est-il, c'est l'école, voyez. Et on comprend très bien. L'école dépend de la famille. Et l'école dépend de l'État. L'école dépend de la famille dans la mesure où l'instruction est liée à l'éducation. C'est par l'éducation que, c'est par l'éducation que l'instruction dépend de l'État. Oui, non, pardon. C'est par l'éducation que l'instruction dépend de la famille. Et c'est par l'instruction que ça regarde l'État. De sorte que, dans une école maternelle, dans une école où l'instruction est tellement liée à l'éducation. Je parlais hier avec Monseigneur Cuminal, parce que ça a été levé comme gros lièvre pendant un repas épiscopal. Monseigneur, vous devriez rétablir votre séminaire dans votre diocèse. Un bon curé qui a dit ça. Le Seigneur a dit, c'est impossible. J'ai quatre, cinq séminaristes. Impossible. Et Monseigneur, dès que le séminaire n'est plus diocésain, international, interdiocésain, ça va plus. L'aspect politique, l'aspect familial, à l'intérieur du point de vue religieux et du point de vue chrétien. Il y a quelque chose dans l'instruction qui peut s'universaliser. Et il y a quelque chose qui ne peut pas s'universaliser, qui est familial. On sent très bien ça. Une instruction peut, d'une certaine manière, s'universaliser. Mais l'éducation ne peut pas. Elle est familiale. Ça, on le sent très bien en vie religieuse. Un diocèse a une éducation qui doit rester du diocèse. L'instruction peut devenir une instruction universelle. Une université. Ah, mais alors voyez tout de suite, dans quelle mesure la théologie peut-elle être universitaire et doit-elle rester familiale? Très grave problème et très intéressant. C'est très intéressant et c'est comme ça qu'on doit poser le problème. Si on veut garder le caractère familial. L'université tend à l'aspect universel. Je sais, j'ai enseigné dans une université. Je vois la différence d'un enseignement théologique ou philosophique dans une université ou dans une famille religieuse. Tout à fait différent. Où la philosophie est-elle la plus vraie? Quand elle est familiale. Aujourd'hui, c'est des idéologies. Alors elle est plus philosophique, elle ne forme plus. C'est ce que Monseigneur m'a tout de suite dit. Il dit, ah, Père, je vois que pour vous, enseigner, c'est éduquer. J'ai dit, je crois que l'enseignement est capital aujourd'hui pour l'éducation, parce que les idéologies ont pénétré partout. Alors si vous n'enseignez pas, vous verrez que votre éducation ne durera pas, parce que les idéologies ont pénétré partout. Donc on doit avoir le souci aujourd'hui d'enseigner pour éduquer. Et si on n'a pas ce souci-là, c'est fini. L'enseignement fera sauter l'éducation. C'est ce qui se passe. C'est très important. Ça, c'est un problème qui touche des choses fondamentales pour sauvegarder une famille religieuse. Alors, on touche le point de vue chrétien. On touche la théologie. Mais ce sont les mêmes problèmes. Si on ne voit pas ça, allez, profondément, vous voyez, on ne comprendra pas les litiges au niveau de l'école. L'école regarde la famille. L'école regarde la famille religieuse, la communauté religieuse. Et l'école dépend du point de vue politique. Bon, l'école, est-ce que l'école, en tant qu'instruction, science et philosophie, ajouter théologie. Alors voyez tout le point de vue. L'Église, peuple de Dieu, l'Église, famille. L'Église, gardienne des universités, l'Église, famille. La vie religieuse maintient dans l'Église le point de vue famille. La théologie, aujourd'hui, est en péril. Tout le monde le sait. Pourquoi ? Parce que l'aspect famille n'est plus respecté. Et alors, on n'a plus que l'aspect scientifique, universel. Et la finalité de la théologie est perdue. C'est un fait. J'ai enseigné dans une université qui, quand je suis arrivé, respecter encore ces points de vue-là, quand je suis parti, ne les respectez plus. Ça prouve que je n'ai pas su les garder. Comme j'ai enseigné la philosophie, je n'avais rien à dire du côté théologique. J'étais un élément étranger en théologie, parce que j'enseignais la philosophie. Alors qu'au début, j'étais un élément essentiel. C'est la théologie qui a éjecté le point de vue philosophique. Aujourd'hui, la théologie a éjecté le point de vue philosophique. Et en éjectant le point de vue philosophique, elle éjecte la famille. La théologie d'aujourd'hui n'est plus familiale. Est-ce qu'elle peut se séparer de la famille ? Moi, je dis non. La théologie. Vous voyez, les hautes écoles, c'est autre chose. Les mathématiques ne sont pas familiales. Un diplôme d'ingénieur n'est pas familial. Il y a l'économie. Ce sont des diplômes qui regardent le point de vue international. Est-ce que les diplômes théologiques, qui sont au niveau de l'Église, peuvent-ils s'aligner au côté international des universités d'aujourd'hui ? Ou, au contraire, la théologie est-elle nécessairement familiale ? L'Église, en tant que gardienne, l'Église liée à la tradition, l'Église liée à la foi. Mais je ne traite pas ce problème ici, puisqu'il faudrait l'éthique relie l'éthique chrétienne. Mais je vois le prolongement de ce que nous faisons ici. Parce que le prolongement est assez net quand on voit le point de vue de l'éducation et le point de vue instruction. Je dis, l'éducation relève de la famille. L'instruction relève de l'État. Et de la famille. Et de l'État. Pour pouvoir arriver à un enseignement universel. Mais le jour où l'instruction est complètement coupée de l'éducation, alors à ce moment-là, l'État a la mainmise sur les jeunes, les pousse du côté de l'instruction, sans aucune éducation. Alors à un moment donné, l'instruction dépérit. Il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de travail. On va vers l'anarchie. Donc il faut toucher ces problèmes-là. Il faut au moins voir qu'il y a des problèmes philosophiques derrière, qui se posent avec beaucoup d'acuité. Alors il reste ici, peut-on dire que le silence est un bien commun, alors qu'il ne nécessite pas d'œuvre commune à proprement parler, éthique religieuse. Pouvez-vous nous dire les différences entre les rapports des citoyens avec leur état religieux lorsque celui-ci est juif et musulman? On regardera ça la fois prochaine.